Heureux de vous voir ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes là? Réveillé, content de continuer cette série « La fin des temps et moi ». Et autant, on ne veut pas juste énoncer les faits qui sont « voici ce que la fin des temps aura lieu », on veut aussi regarder à « et moi ». Car nous avons tous un rôle à jouer. Je pense qu'en tant qu'Église, nous avons un rôle majeur et essentiel à jouer. Nous ne sommes pas là juste à dire « attention, on va subir la fin des temps ». Non, on va dire « nous avons un rôle à jouer pour briller dans des temps qui seront ténébreux ». Mais l'Église est là et porte un espoir, porte une nouvelle qui est la bonne nouvelle, qui est pleine de lumière. Et ça, c'est notre cœur aujourd'hui d'apporter le côté où voici ce que la fin des temps, oui, aura lieu, mais voici ce que l'Église est appelée à faire et à briller. Combien sont reconnaissants pour juste la vidéo de Drummondville, qu'on voit une Église qui grandit, une Église qui est déjà là avec une vision, beaucoup d'implantations maintenant, on voit Châteauguay, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Est-ce qu'on pourrait être reconnaissant envers Dieu pour une Église qui avance en 2021? Est-ce qu'on peut célébrer ce que Dieu fait au travers de chaque communauté? Et on prie que le Québec soit sauvé. On n'est pas appelé à subir la fin des temps, mais à briller dans des temps difficiles. On a un rôle essentiel à jouer et en fait, on va regarder aujourd'hui à quelle attitude nous devons avoir pour briller dans des temps de la fin. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La culture de l'honneur ». La culture de l'honneur. On va regarder aujourd'hui à qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. En fait, la culture de l'honneur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas premièrement, ce n'est pas quelque chose qui brille, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à l'église. Mais quand les lumières se ferment, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, parce que la culture de l'honneur est comme le fondement de tout ce qui se passe. Je le dirais comme ça un petit peu pour vous donner une illustration drôle. C'est comme cette photo que j'ai vue récemment, si tu veux la mettre. Pourquoi les dentistes sont importants? Parce que même s'il lui manque un sourcil, la première chose que vous avez remarqué, c'est son sourire. Okay? Enlevez le sourire, tout de suite vous allez voir qu'il lui manque un sourcil, il y a quelque chose qui est bancal. La culture de l'honneur, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas ce qu'on voit à premier égard, mais une fois que les lumières sont fermées, une fois que les sourires s'en vont, c'est vraiment ce qui reste. On voit exactement ce qui ne va pas quand il n'y a pas de culture d'honneur. Et je crois qu'on est dans une église qui met l'honneur à un haut niveau. Nous voulons être connus comme des gens qui honorent non seulement Dieu, mais les autres. Parce que si nous sommes importants pour Dieu, nous sommes importants pour l'église. Personne n'est quelqu'un qui est moins important. Non, non, non. Chaque personne est importante. Et on va regarder aujourd'hui à combien la culture de l'honneur, elle est non seulement importante, mais encore plus essentielle dans des temps qui sont difficiles. Avez-vous déjà voyagé? Avez-vous déjà été voir un pays qui n'est pas le vôtre? Peut-être que vous avez déjà été visité en Asie ou en Amérique latine. À chaque fois, on arrive dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région du monde, il y a une nouvelle culture qui est là. Il y a plein de coutumes, il y a plein de traditions, il y a plein de choses qui sont différentes pour nous, mais on voit, ça détermine ce pays, c'est ce qui définit un petit peu. Nous avons la culture de l'honneur qui, je crois, réellement est une culture de royaume de Dieu. Ce n'est pas juste, on va trouver une valeur de l'Église Nouvelle Vie à la Prairie. Non, non, pas du tout. Je crois que la culture de l'honneur est une culture du royaume de Dieu. Et nous devons revenir à regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous aujourd'hui quand on parle de culture d'honneur? On en a tellement besoin parce que les jours sont mauvais. C'est Paul qui le dit à Timothée. Quand il parle des temps de la fin, il le dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est Paul qui parle à Timothée en le prévenant. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » L'apôtre Paul ne mâchait pas ses mots, n'est-ce pas? Il est en train de donner, voici, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Voici comment les êtres humains seront. Et je crois qu'ici au Québec, nous sommes dans une culture de personnes où on essaie d'être le plus gentil possible, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici au Québec, ils disent « Oh, on dirait que tout le monde est gentil ici. » Oui, on dirait, parce que tout le monde n'est pas forcément gentil. Ou des fois, on a l'apparence de la gentillesse, mais en arrière, on ne pense pas moins. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as un sourire, tout va bien. Des fois, tu as ton compte Instagram qui est là, mais en arrière, il y a le backstage qui n'est pas rangé, vraiment. Et puis, on le sait qu'on voit que même si on vit dans un Québec qui est bien, qui a des belles valeurs, on voit qu'en arrière, à chaque nouvelle, chaque drame qui se passe, chaque famille, chaque chose qu'on disait, « Oh, mais c'est un bon voisin, on ne comprend pas pourquoi il a pris une arme et puis il a tué complètement toute sa famille. » On ne comprenait pas pourquoi. parce que dans les derniers jours, il y aura des choses qu'on ne comprend pas. Même les gens qui pensent vivre une bonne vie ont en eux un vide qu'ils ne savent pas comment expliquer. Et je crois que l'Église est appelée à dire, nous ne sommes pas meilleurs que vous, nous sommes juste des pécheurs en quête d'un sens et nous l'avons trouvé dans la personne de Jésus-Christ. Il a rempli nos cœurs d'une lumière, il a enlevé les ténèbres en nous et nous devons marcher proche de lui pour devenir ce qu'il nous appelle à être, des gens, des agents de paix, des gens qui parlent avec amour, des gens qui pardonnent ceux qui les offensent. Dites amen quand vous voulez, je prêche la parole en ce moment. Mais il y a quelque chose que nous devons vivre ce matin en disant, Seigneur, donne-nous une importance de la culture d'honneur parce que nous voulons vivre selon les principes du royaume de Dieu. Combien disent amen. Le verbe honorer veut dire tenir en haute estime, marquer son respect, sa considération. Qui aime quand on le met à l'honneur? Les gens disent, non, moi je suis humble. Non, bien sûr, dans votre cas, oui, j'aimerais plus. N'est-ce pas, quand vous avez une promotion et que votre patron devant tout le monde dit, j'aimerais qu'on prenne un instant et qu'on applaudisse. Vous êtes l'employé du mois. C'est juste que le mois d'après, vous baissez dans les ventes, puis là, vous êtes le dernier employé du mois. Oh non, j'aurais... Non, des fois, qui aimerait être... Tout le monde aime être mis à l'honneur. Mesdames, même quand ce n'est pas votre fête et que votre mari arrive avec un paquet de fleurs, un bouquet de fleurs, waouh, il vous met à l'honneur. Il y a quelque chose que... Mais pour quelle raison? Il n'y a pas de raison parce que je t'aime. Waouh, j'aime ça. Combien de femmes disent « Amen » Combien d'hommes disent « Ok, j'ai compris le message ». Rendre, tenir en haute estime, marquer son respect, sa considération dans une culture qu'on appelle aujourd'hui l'ère de la « cancel culture ». Je ne sais pas s'il y a un terme francophone, j'ai essayé de chercher, mais même dans la presse, ils parlaient de « cancel culture », la culture où on cancelle les autres, où on annule les autres, où on essaye de détruire les autres quasiment. Et autant, comprenez-moi bien, je pense que la « cancel culture » a deux extrêmes. Il y a un extrême où on dénonce les choses qui sont complètement loin du cœur de Dieu et il faut les dénoncer. Je ne suis vraiment pas contre le mouvement de dénonciation des gens qui ont fait du mal dans l'agression sexuelle et tout ça, vraiment pas. Et moi, j'encourage chaque personne qui a vécu quelque chose à venir et en parler, à mettre des actes parce qu'il y a du monde qui a besoin d'être mis devant leur mauvais acte. Et réellement, la justice doit faire son travail. Maintenant, je pense qu'il y a un autre extrême où chaque personne s'est dit, moi, je vais dénoncer ce que je pense qu'il fait mal. Alors quelqu'un, quand il a une autre pensée que lui, je vais dénoncer. Il y a des gens en ce moment, il y a des professeurs, je lisais des articles, un article qui est passé dans Forbes, qui disait que la cancel culture, non seulement c'est des mouvements de dénonciation des choses qui sont vraiment infâmes, des crimes et tout ça, mais autant toute personne qui a un réseau social maintenant peut dénoncer des personnes qu'ils pensent être en désaccord. Et il y a des gens qui ont perdu leur travail complet parce qu'il y a des fausses rumeurs qui ont commencé à circuler. Quelqu'un n'aimait pas son patron, alors il a commencé à dire « Oui, regardez ce qu'il a déjà dit, tout ça. » Et puis il a commencé à faire une vague. Tout le monde a repris ça sur les réseaux sociaux et il y a une telle pression que la personne a perdu son travail pour des mensonges. Et quelques années après, les gens disaient « Non, c'était juste une vengeance. » Donc la cancel culture, c'est un côté où une culture de déshonneur. Une culture où, parce que tu n'es pas d'accord avec moi, je vais tout faire pour essayer de te supprimer. Aujourd'hui, on vit dans une ère de perpétuelle offense. Et vous allez voir que même quand je vais le dire, vous allez avoir des situations ou même des visages que vous allez voir. On est rapide à juger, rapide à critiquer, rapide à condamner. Alors, on cancelle toutes les personnes qui nous offensent. Ça peut être un tweet que tu as écrit il y a 10 ans, avec une blague peut-être un tout petit peu déplacée. Et là, aujourd'hui, il ressort et puis tu peux perdre ton travail juste parce que tu as écrit une virgule de trop quelque part à un moment donné. Une joke déplacée sur Facebook, une photo sortie de son contexte sur Instagram, un like sur le post d'un politicien. Et puis là, toute ta famille dit « Mais qu'est-ce que c'est là ?» Et puis là, on te supprime. Si tu cherches constamment quelque chose qui pourrait t'offenser, tu trouveras toujours ce que tu recherches. Parce qu'on est dans une culture où on recherche l'offense, on recherche une cible, on recherche quelqu'un qui va être une cible. Plus nous vivons dans une culture qui passe son temps à rechercher l'offense, à être en colère, à déshonorer ceux qui ne pensent pas de la même manière, et je vous le dis, l'Église arrive. Parce que là où l'Église amène une parole de vérité, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette lumière-là et qui vont essayer au maximum de faire taire la voix de l'Église et de dénoncer et d'essayer de canceller l'Église. Mais gloire à Dieu, l'Église ne sera jamais cancellée. Le royaume de Dieu continuera parce que la lumière, oui, elle met en lumière ce qui est ténébreux, mais la lumière attire ceux qui cherchent la vérité. Et je crois réellement, c'est pour ça que nous prêchons la bonne nouvelle de la vérité de l'Évangile. Et parfois, oui, ça fait mal parce que la vérité, c'est comme une épée qui tranche. Mais elle est toujours pour le bien. La vérité nous rendra libres. Plus nous vivons dans une culture de déshonneur, plus nous avons besoin d'être des chrétiens qui vivent et qui représentent la culture de l'honneur. Et la première personne que nous devons honorer, bien sûr, c'est Dieu. Honorer Dieu, la culture de l'honneur commence avec en premier lieu, et surtout pour l'Église, Dieu. Dans une culture où Paul le dit, il y aura des blasphémateurs, des ennemis du bien, des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans cette culture-là. Ou même dans les mots, dans le vocabulaire aujourd'hui, de la manière dont on parle, tous les mots qui sont des insultes sont à caractère religieux. Et je comprends, il y a un passé qui est lourd, mais ça montre bien le rejet de tout ce qui est divin, de tout ce qui est religieux, de tout ce qui représente la foi. C'est pour ça que nous avons encore plus besoin d'être une église qui représente Dieu de la bonne manière, à des gens qui ont été blessés, à des gens qui pensent que Dieu est tellement loin, Dieu est tellement en colère. Non, nous avons besoin de représenter le Dieu d'amour qui aime, qui a tout donné pour que nous puissions être dans sa présence. Comment honorer Dieu, vous et moi, chaque jour? En étant une louange vivante. C'est dans Psaume 96, 7 qui dit « Famille et peuple, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Il faut que Dieu soit toujours le premier. Ou je dirais même maintenant, le terme premier, parfois, c'est un petit peu comme vu comme « Ah, oh, il est le premier de ma journée. » Je lis le verset du jour et puis c'est « check » dans ma checklist. Je peux passer à autre chose. Dieu, ça a été le premier, maintenant il y a tout le reste. Non, Dieu doit être le centre. Tout ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu rêves, comment tu réagis, doit être centré sur Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, ah, dans les 15 premières minutes de ma journée, je me suis mis une discipline et maintenant je vais passer mon temps avec Dieu. Et une fois que j'ai fermé ma porte, ben, Dieu reste dans mon placard et puis maintenant je peux passer à toute ma vie. Non, chaque chose du matin, de ta première respiration jusqu'à ta dernière, Dieu doit être le centre. Comment je réagis par rapport à ce collègue-là qui me fait des avances? Ben, regarde à Christ. Comment je dois faire pour dealer telle et telle chose? Comment je dois faire pour élever mes enfants, pour honorer mon mari ou ma femme? Il y a quelque chose qui est central. Ne mettons pas une checklist à Dieu en disant « parce qu'il est le premier maintenant, je peux passer à tout le reste ». Non, il doit être le centre. Combien disent « Amen » ? Tout ce que je dis, tout ce que je suis, doit l'honorer. Et cette église, ce lieu ici, n'a qu'une seule vocation, rendre la gloire et l'honneur à Dieu. Avant toute chose, avant tous les services qui vous sont destinés, avant d'être une maison qui accueille beaucoup de personnes pour proclamer l'évangile, elle est une maison de prière, prière pour être en relation constante avec Dieu. Et nous devons venir ici ce matin en disant, Seigneur, montre-nous aussi comment on peut honorer ta maison. Et en parlant d'honorer la maison de Dieu, il faut que j'apporte quelque chose. Parce qu'en ce moment, on regarde même au niveau des statistiques, il y a plus de la moitié des personnes qui arrivent après le service de chant à l'église, en retard. Et je le sais, quelqu'un pourrait dire, « Oui, mais il y avait une déneigeuse en ce moment, j'étais... » Non, il n'y a pas de neige. On pourrait tous avoir des excuses en disant, « Oui, mais tu sais, je suis arrivé en retard parce que... » Vous savez, j'ai deux jeunes enfants et je vous le dis le matin, c'est la course. Il va falloir vraiment qu'on ait un plan de match et tout ça. Je vous le dis, arrivé à 8 heures, je suis déjà fatigué comme si c'était 16 heures du soir. Mais ça prend une organisation pour pouvoir arriver à l'heure. Mais je crois réellement que nous devons rehausser notre honneur par rapport à la maison de Dieu pour arriver à l'heure. Non pas juste parce que, oh, on va déranger quelqu'un. Non, c'est juste pour honorer Dieu. La louange qu'on apporte à Dieu dans sa présence quand on chante « Oh gloire au nom de notre Seigneur ». Quand on arrive et qu'on dit « Seigneur, c'est vrai, je t'abandonne tout. C'est pas moi le centre de l'univers, c'est toi. Et Seigneur, pardonne-moi pour aujourd'hui, puis je veux te donner la gloire. » C'est dans la louange qu'on le fait. Si on arrive au milieu de la prédication, ben on a raté un bon moment pour pouvoir honorer Dieu, alors que Dieu voulait, lui, être dans la présence et il voulait nous accueillir. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui se donner un défi? Et je le comprends, jeune famille, il y a plein de choses. Et puis, ne vous condamnez pas les uns les autres dès que quelqu'un arrive en retard. T'as vu, toi, tu déshonores Dieu. Non. Il y a des gens, je vous le dis, ils font une heure de route pour s'en venir ici. Alors, est-ce qu'on pourrait les applaudir? Ceux qui font beaucoup de route pour venir ici. Alors qu'on était en train de préparer ça, je me dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, j'ai fait comme une heure et demie de route, je me suis perdu et tout ça, puis je suis arrivé au milieu du message, puis j'étais comme, oh, heureusement que la semaine dernière, j'étais pas en train de faire cette annonce-là, la personne se serait sentie jugée. Aujourd'hui, je ne veux juger personne, je veux juste nous défier à honorer encore plus Dieu, à dire, Seigneur, aide-moi à arriver plus tôt. Au lieu d'être rushé, puis juste de stresser, c'est la pire des choses, de stresser dans son auto en disant, oh, j'arrive en retard quelque part. Mais d'arriver à l'heure, de prendre les enfants et de eux-mêmes, non pas les stresser, mais les mettre dans les classes, et puis pouvoir parler avec les moniteurs. Hey, merci pour qui vous êtes, merci pour ce que vous faites, de pouvoir parler, saluer les personnes ici. Des fois, on dit, oh, il y a beaucoup de monde, on ne les connaît pas. Arrive avant, tu auras 5 minutes pour les connaître. Mais il faut que nous puissions, s'il vous plaît, nous défier à dire, hé, la semaine prochaine, alors qu'on va dire aujourd'hui, bienvenue à tous, entrons dans la présence de Dieu, qu'on soit tous là pour honorer Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? L'Église n'est pas un club de bénédiction. L'Église n'est pas un club où on vient ici et puis on se dit, ah, oh, on passe du bon temps pour nous. Non, l'Église n'a qu'une seule vocation, c'est donner l'honneur et la gloire à Dieu. C'est là où on rencontre Dieu. Ne soyons jamais hypocrites, parce que Jésus l'a dit, hein, ce peuple m'honore des lèvres, mais il est éloigné de moi, son cœur est éloigné de moi. Ne soyons jamais des chrétiens qui ont une apparence d'honorer Dieu, mais en arrière, on est juste éloigné de Dieu. Soyons humbles, vous et moi, en disant, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais même pas comment t'honorer, mais juste par ma vie et même par mes faiblesses, je te prie, Seigneur, que tu prennes tout et aujourd'hui, je te donne tout pour que tout, Seigneur, tout puisse être à ta gloire. Et même mes faiblesses, tu vas en faire, tu vas changer mes faiblesses par ta force, tu vas venir combler ce qui me manque et tu vas faire qu'aujourd'hui, malgré qui je suis, tu vas briller. J'étais sans valeur, mais tu m'as honoré, tu m'as donné une valeur et je veux briller pour lui. Alors que Paul, quand il parle des temps de la fin, il dit « Voici comment ça va être difficile, voici comment les hommes seront. » Mais voici ce qu'il dit à Paul, quand il dit « Mets-toi, Timothée. » Il dit « Timothée, toi demeure, Timothée 3, 14, 15, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Paul dit « Attention, la culture va être de plus en plus loin de Dieu. » Elle va déshonorer de plus en plus Dieu. Mais toi, il n'a pas dit, et 3-4 stratégies pour pouvoir... Non, non, il dit, garde tes yeux sur la parole de Dieu. Garde ton cœur proche de la parole de Dieu. Ouvre, médite, regarde, étudie, prie, que la parole te parle, parce que c'est que comme ça que tu vas être différent de la culture qui s'en va loin. En fait, si nous ne connaissons pas le cadre de vie dans lequel Dieu nous dit « Voici, voici ton champ d'autorité, voici ce que je te donne, voici le plan que j'ai pour toi », comment saurons-nous naviguer dans des philosophies, dans des doctrines que parfois ils nous emmènent complètement loin de Dieu? C'est en connaissant l'encre de nos vies. Parce que peu importe la tempête que tu penses, peu importe les mensonges qui arrivent, si tu le confrontes par rapport à la vérité gagnera toujours, la vérité ne perd jamais. Alors si tu as une situation en ce moment que tu dis, je ne sais pas quoi faire, viens mettre tes pieds, viens mettre tes yeux sur la parole et la parole de Dieu sera une ancre dans ta tempête. Et peu importe la tempête, tu resteras là. Et si Jésus est avec toi, il n'y a personne qui peut te vaincre. Combien peuvent donner une gloire? Combien peuvent applaudir notre Dieu qui nous a donné la parole? Aucune stratégie ministère ne pourra remplacer l'exposition fidèle à la parole de Dieu. Et je vous encourage comme église, on veut être dans la culture d'honneur et d'honorer Dieu, connaissez votre parole. Parce que parfois, des chrétiens veulent honorer Dieu, mais sont complètement loin de la vérité. J'entends aujourd'hui avec YouTube, des gens, des fois ils m'envoient des vidéos en disant « Oh regarde, il parle de ça, je n'avais jamais lu ça dans la parole. » C'est des gens qui prennent une vérité, qui la tordent pour leur gain personnel. Pour leur façon de voir, de vivre la sexualité aujourd'hui en 2021. Et puis ils disent, oui, regardez, Jésus ne voulait pas juste dire ça, il voulait dire ça. Et puis là, ils prennent la parole, ils la tournent pour qu'elle fitte avec ce que la pensée de la culture aujourd'hui dit. Et ce n'est pas du tout ça. Il faut que nous regardions la parole qui transcende les cultures, qui transcende les pensées, qui transcende les philosophies, qui transcende toutes les générations. Et qu'est-ce que je dois penser? C'est ce que Dieu m'a dit de penser dans sa parole. Alors que cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est très tout jeune dans la foi. Depuis le retour en présentiel, c'est une dame qui a donné sa vie à Dieu. Et c'est incroyable parce que alors qu'elle est tout jeune dans la foi, il y a des pas dans son cœur qui sont incroyables. Elle fait une marche chrétienne. Et puis je parlais avec cette personne et elle me disait combien son désir est d'honorer Dieu. Elle dit, aujourd'hui, si même je dois couper des choses dans ma vie auxquelles je tiens, mais qui déshonorent Dieu, ben je vais le faire. J'ai l'impression que Dieu me donne une paix et une conviction de dire, même si je me sépare de ça, si je me sacrifie pour Dieu, ben c'est correct, il va prendre soin de moi. J'étais complètement exhorté par cette dame qui n'a même pas 3 mois de vie chrétienne, et puis j'étais comme juste, si tous les chrétiens pouvaient comprendre cette clé-là. Si je me sacrifie des choses qui déshonorent Dieu, mais Dieu prendra soin de moi. Et j'ai comme une paix qui était là, j'ai comme, vous avez clairement le Saint-Esprit en vous, parce que le Saint-Esprit nous convainc. Est-ce qu'il nous convainc, cet esprit? Est-ce qu'il te convainc encore aujourd'hui, comme il y a 15 ou 16 ou 20 ans ou 32 ans, quand tu as connu la parole de Dieu, quand tu as découvert son amour? Si en ce moment tu dis, ça fait longtemps que le Saint-Esprit ne m'a pas parlé, reviens au centre de la parole, reviens au centre de la prière, demande-lui, Seigneur, viens me parler. Parce que je te le dis, même si tu penses être une personne, Dieu a toujours besoin de confronter des choses en toi. La parole n'est pas là pour te mettre des claques à chaque fois que tu la lis. La parole est justement là pour te tendre la main en disant, viens encore plus proche, viens encore plus proche. Sacrifie ça, enlève ça, fais un pas de foi à nouveau et tu vas voir que là, Dieu va t'amener plus proche de toi. La conviction, nous avons besoin que le Saint-Esprit parle à nos cœurs pour que nous puissions honorer Dieu. Amen. Mais on n'est pas juste appelé à être en relation avec Dieu et à honorer Dieu seul, mais aussi les gens qui nous entourent. La deuxième chose, c'est que nous devons honorer les gens qui nous entourent. Quelqu'un dira, honorer, c'est un grand mot quand même, Pasteur Ben. Là, honorer Dieu, oui, mais honorer les autres, non. Regardez ce que 1 Pierre 2, 17 dit. Honorer qui ? Honorer tout le monde. Aimer les frères comme d'un amour spécial, un amour fraternel. Craignez Dieu. Il y a vraiment une crainte de Dieu. Et honorer le roi. Honorer tout le monde. Il n'a pas dit honorer seulement ceux qui sont honorables. Honorer seulement ceux qui sont comme bien en autorité au-dessus de vous. Non, il a dit honorer tout le monde. Comment on peut honorer tout le monde? Il y a un simple mot qu'on retrouve dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Tu sais? L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la douceur. Il y a comme un côté où si tu as le caractère de Jésus-Christ, tu seras une personne gentille. On dirait que c'est la base de tout. On dirait que j'apprends à mes enfants à dire « il faut que tu sois gentil ». Mais des fois, c'est comme « Ben, il faut toi aussi que tu sois gentil ». Pas juste que tu saches qu'il faut être gentil, mais que tu sois gentil. Dans une culture aujourd'hui, où même d'être gentil, c'est plus forcément la base. Je me souviens, Sophie, elle va faire de l'épicerie, puis à un moment donné, avec son chariot, elle est là, et puis il y a quelqu'un qui est en train de mettre des cartons dans les étagères du magasin, et à un moment donné, il y a un carton qui tombe. Sophie passe à côté, naturellement, elle prend le carton, elle dit « Oh, tenez !» Puis là, il y a quelqu'un qui passe à côté d'elle, et puis qui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Elle dit « Ben, le carton est tombé, je lui donne. » Elle dit « Il est payé pour faire ça. » Et il continue. Ça va dire comme « Ça m'a pris quoi 10 secondes pour l'aider au lieu qu'il descende et puis qu'il te sort. » Est-ce qu'on pourrait revenir dans un monde où les simples actes de gentillesse ne sont pas comme vus comme « Mais pourquoi tu fais ça ? Le bien changé en mal, le mal changé en bien, il y a quelque chose. » Mais c'est normal, c'est logique. Bien sûr, peut-être qu'on est tombé sur quelqu'un qui n'était pas du lundi matin et qui n'aimait pas. Mais il y a comme quelque chose qu'on s'est dit « Mais c'est la base, ça devrait être ça. Aimeriez-vous vivre dans une société où tout le monde est gentil avec son voisin ? Où tout le monde, au lieu de regarder, oh, regarde ce qui fait mal. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais l'amour est là, patient, elle pardonne tout, elle croit tout. Il y a comme quelque chose où pourrions revenir à l'amour de base qui est dans la parole de Dieu, que Dieu nous démontre à nous et il veut nous remplir d'un amour. Un amour qui est gentil, un amour qui prend soin des autres. Un amour qui est proactif. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et même si tu es payé pour faire ça, je ne sais même pas s'il était bien payé pour faire ça, mais en tout cas, est-ce qu'on peut juste l'aider à porter son carton et puis dire, mais il y a comme un côté où je me disais, est-ce qu'on pourrait être, nous, des gens qui honorent les autres? Dans une culture qui va voir le côté hiérarchique. Si je gagne plus que toi, tu dois m'honorer. Moi, tu dois me servir. Moi, non, est-ce qu'on pourrait être une église qui honore chaque personne? Qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre. Qu'elle soit importante pour nous ou pas du tout, parce qu'on ne la connaît pas. Est-ce qu'on pourrait être une église qui, comme pour Jésus, il est venu en voyant toute l'humanité ayant besoin de lui. Et il est venu servir chaque personne. Est-ce qu'on pourrait être une église qui dit, Seigneur, chaque personne, qu'elle te connaisse ou pas, qu'elle soit d'une autre religion que la mienne ou pas, est-ce que je peux juste avoir un cœur qui honore les gens? Honorer tout le monde. Est-ce qu'en ce moment, tu démontres assez l'amour de Dieu autour de toi? Es-tu celui qui encourage le plus les gens autour de toi? Es-tu celui qui abat les critiques et qui est un agent de paix? Au lieu des divisions. Ou es-tu celui qui met de l'huile sur le feu? Es-tu celui en ce moment qui amène des paroles de vie aux gens autour de toi? Ou es-tu celui qui reste dans son coin en disant, bah, regarde, il se débrouille, je me débrouille, on a tous les deux nos problèmes. Et puis, non, est-ce que tu es proactif à dire, je voudrais être celui, être la parole que Dieu veut donner à quelqu'un? Il y a une personne cette semaine qui est venue à l'église et il me dit, c'est incroyable Ben, parce qu'il faut que je te le mentionne. Il dit, la dernière fois que je suis venu à l'église, on avait un rendez-vous ensemble, et il dit c'était vraiment une semaine particulièrement difficile pour moi. Plein de mensonges dans ma tête, plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Et il dit, quand je suis arrivé à l'église, j'ai juste ouvert la porte, et puis là, il y avait deux personnes du staff qui l'ont accueilli, et puis qui ont dit, hey, content de te voir aujourd'hui. Hey. Et puis là, il y avait comme quelque chose sur son habit, hey, j'aime vraiment ton style, et tout ça. Il dit, c'est fou parce que c'est de base. Mais quand je me suis assis, j'ai dit, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Il dit, ces deux compliments, ces deux juste, hey, on est heureux de te voir, puis là, t'es bien habillé aujourd'hui. Mais il dit, c'est exactement ça que je me suis dit, waouh, ça me fait tellement de bien. Et puis il dit, je ne comprends même pas pourquoi ça m'a fait autant de bien. Mais il dit, il y avait comme une parole de validation, une parole de vie, d'encouragement qui venait. Et après, on a parlé ensemble, on a prié ensemble. Il dit, c'était incroyable. En rencontrant trois juste personnes à l'église pendant quelques minutes, il y avait comme quelque chose, un feu qui était en dedans de moi. Est-ce qu'on pourrait être cette église qui dit, Seigneur, si tu as besoin d'une personne qui parle, qui encourage quelqu'un à la job? Peut-être que quelqu'un en ce moment a tellement des idées noires dans sa tête, tellement qu'il pense de se suicider, peut-être que, tellement qu'il se dit, il n'y a plus personne qui m'aime, je ne sers à rien dans ce monde. Et puis toi, tu arrives le lundi matin en disant, je voudrais juste te dire, la semaine dernière, tu as fait une super job avec cette... Imaginez comment ça pourrait être un feu qui s'enflamme. Mais pourquoi tu me dis ça? Ben parce que tu es important et puis je veux juste te le dire. Est-ce qu'on pourrait être une église qui est proactive, qui parle avec la vie, qui donne des paroles? Je pense que ce n'est pas juste des paroles spirituelles que Dieu veut qu'on se donne les uns les autres avec une prophétie, voici pour toi. Non. Dieu veut parler au travers de nous, même par notre gentillesse. Combien disent Amen? Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. La lumière brille. Et les gens diront, mais pourquoi vous brillez comme ça? Ben c'est parce que c'est la lumière de Christ qui brille en nous. Est-ce qu'on pourrait se dire, Seigneur, donne-nous cette semaine d'être les gens les plus gentils que nous rencontrons? Est-ce qu'on pourrait se donner un défi, Seigneur, donne-moi à être celui qui encourage le plus dans mon quartier? Seigneur, donne-moi d'être celui qui sert les autres de la meilleure manière. Pas d'être dans une société qui s'en va de plus en plus vers l'individualisation. On ne se parle plus, on ne se parle même plus avec nos voisins, on ne se parle plus avec nos grands-parents parce que s'ils sont plus vieux que moi, ben moi je suis une jeune. Non, est-ce qu'on pourrait être ceux qui font une attention particulière parce que nous sommes appelés non seulement à honorer Dieu, mais à honorer les gens autour de nous. Amen. Jamais prendre pour acquis les gens qui sont autour de nous. Jamais prendre pour acquis quand tu rentres à l'église que quelqu'un te dise « Oh, attendez, je vais vous donner une place ». Jamais prendre pour acquis que la personne qui te donne une place, c'est une place qu'il a comptée parce que chaque siège en ce moment, s'il y a une société, s'il y a une génération en ce moment où on fait l'église, où c'est compliqué d'essayer de remplir des salles avec les, c'est bien aujourd'hui. Alors quand la personne te dit, oh, voulez-vous bien vous asseoir ici s'il vous plaît, et puis que quand il part, tu dises, non, je vais m'asseoir là parce que j'ai envie, peux-tu honorer la personne qui te dit, s'il te plaît, on a tout bien calculé, il y a le nombre de places comprises, il y a le nombre d'inscriptions, c'est compliqué, il y a des gens qui viennent pour la première fois qui ne se sont pas inscrits, on veut pas devoir les refuser, mais si tout rentre bien comme on l'a pensé, ben ça fonctionne. Et en ce moment, Dieu nous aide à augmenter la capacité au niveau des chaises et tout ça. On essaye vraiment, c'est une personne à la fois, je vous le dis là. Il y a encore quelqu'un ce matin qui vient en disant, s'il y a une personne qui arrive, ben je vais lui donner mon siège. On est dans cet état d'esprit-là. Ne prenez jamais pour acquis que la personne qui vous sert, elle a juste ça à faire de sa semaine. Et puis, elle a tellement de temps à faire qu'elle vient le dimanche matin en disant, OK, viens t'asseoir là. Est-ce qu'on pourrait honorer les gens qui nous servent? Les gens qui sont là bénévoles, qui se lèvent très tôt le matin, qui eux aussi ont une semaine de travail, mais qui viennent les dimanches en disant, moi je veux juste servir le peuple de Dieu, est-ce que je peux faire quelque chose? Pouvons-nous honorer, non seulement honorer, mais remercier? Il y a des gens qui arrivent en retard et qui râlent quand ils arrivent en retard. Oh, ça ne va pas assez vite. Arrive à l'heure, ça ira très très vite. Je te le dis, tu auras de la place, tu pourras t'asseoir même au premier rang. Mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, remercier, honorer et vraiment applaudir chaque bénévole qui sont ici parce qu'ils font un travail incroyable dimanche après dimanche? Et trop souvent, on voit les pasteurs en avant en disant « Waouh, l'église est remplie » parce que non. C'est un travail d'ensemble. Si j'étais tout seul à prêcher, il n'y aurait pas de micro, il n'y aurait pas de band, il n'y aurait personne qui ouvrirait la place, ça serait sale par terre. On croit rapidement que c'est juste les personnes sous le projecteur qui font toute la job. Je ne fais pas toute la job, vraiment pas. Mais unis ensemble, et puis chacun avec son rôle, avec notre appel, on peut faire ensemble quelque chose d'incroyable. Et là, c'est une main tendue. Hein. Si tu veux servir avec nous, viens servir avec nous parce qu'on veut t'honorer aussi. Et on veut qu'ensemble, on puisse honorer chaque personne qui rentre ici. Je veux honorer les personnes qui, pour la semaine prochaine, ont fait que le baptême soit possible. Bien sûr, la grâce de Dieu, c'est lui qui touche les cœurs. Mais en ce moment, on a une vingtaine de baptisés qui, dès qu'ils se sont inscrits pour le baptême, on a réussi avec toute l'équipe, avec Pasteur Jacques et tout ça, tous les staffs et tout ça, de mettre en relation un à un chaque baptisé avec une personne qui leur apprend les bases de la foi, l'ABC de la foi. Et en ce moment, c'est un travail colossal de trouver 20 mentors qui peuvent prendre une heure par semaine pendant 4 semaines pour faire un travail. Mais il y a des fruits incroyables, il y a des prières qui se font, il y a des amitiés qui se lient. Ça, je veux les honorer. Chaque personne qui fait l'ABC de la foi en ce moment. Vous êtes des héros de la foi parce que vous faites un travail pastoral. Vous prenez soin des gens, vous les écoutez, vous les conseillez, leur apprenez les bases de la foi chrétienne. Et ça, c'est ce que l'Église a besoin. Si on peut en avoir 60 la fois prochaine, on aura plus de baptisés. Si on peut en avoir 120 et si à un moment donné, on peut en avoir 500, le nombre qu'on est ici, des disciples qui font des disciples. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait en ce moment que l'Église avance et se multiplie? Marie envers vos femmes, enfants envers vos parents, est-ce que vous êtes les personnes qui honorez les autres le mieux possible? Est-ce que vous êtes intentionnel dans votre manière de leur démontrer votre amour? Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit aussi que vos progrès soient évidents de tous. Il le dit à Timothée, quand Paul y parle, il dit que tes progrès soient évidents de tous. Tout le monde doit voir que tu augmentes, pas que tu empires. Est-ce qu'en ce moment, dans les domaines de ta vie, dans relationnel, même spirituel, est-ce que les gens te voient augmenter? Est-ce que c'est évident pour tout le monde que tu es en croissance? Et il n'y a pas de jugement, tu peux être en plateau en ce moment où c'est la pire saison de ta vie. Nous sommes là pour faire en sorte qu'on change de sens et on vient ensemble et on avance. Mais il faut que tes progrès soient évidents de tous. Si tu dis, ça fait 5 ans que ma vie est comme sur un plateau ou qu'elle descend, viens nous voir. On va prier ensemble, on va te mettre dans un groupe, on va faire quelque chose avec toi pour que tu changes de sens parce que tu es appelé à grandir de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'honneur, ça crée un climat de joie, d'encouragement, de célébration. Les uns avec les autres, les uns pour les autres. Quand tu honores quelqu'un, tu n'es plus jaloux. Tu n'es plus jaloux de cette personne. Tu es heureux pour ses victoires. Tu célèbres avec cette personne. Imaginez une église qui célèbre les victoires les uns des autres. Puis quand quelqu'un a une promotion, tu n'es pas en train de dire « Ouais, ben moi, ça fait 5 ans que je prie pour ma promotion et puis je ne l'ai pas. » Non, ouais, je suis content pour ta promotion. Puis je te bénis. Une des choses qu'on m'avait appris rapidement, c'est dès que tu jalouses quelqu'un, prie pour cette personne. Bénis-la. Mais des fois, je suis jaloux parce que cette personne est bénie et moi, je n'ai pas l'impression d'être béni. Mais c'est ça le principe. Continue à prier pour elle. Continue à demander la faveur de Dieu pour sa vie. Parce qu'au plus tu pries pour une personne, au plus ton cœur se lie avec la personne. Au plus l'amour grandit pour cette personne. Et quand cette personne tombe, ben t'es peiné au lieu d'être juste « Ah, enfin, elle tombe, ben moi je m'élève. » Non, si t'es content parce que quelqu'un tombe, tu tombes avec elle. Il faut qu'on puisse être heureux pour les gens, les célébrer. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, célébrez-le. Quand vous allez chercher vos enfants ce matin, célébrez les gens qui vous servent. Célébrez parce que c'est eux qui prennent soin de vos enfants, alors que nous, on peut être là, entendre la parole. Eux font amènent une prédication pour les enfants adaptée. Célébrons-nous les uns les hommes. Sème ce que tu veux récolter. Là où tu sèmes, tu vas récolter ce que tu sèmes, mais tu vas récolter plus que ce que tu sèmes. C'est la loi des semailles. Sème 10, tu vas en récolter 100. Sème 100, tu vas en récolter 1000. Tu sèmes une petite semence de pommes, ben tu vas avoir un pommier qui va te donner des milliers de pommes. Il y a quelque chose qui est spirituel. Sème l'honneur et tu recevras de l'honneur. Sème de l'amour, tu recevras de l'amour. Il y en a qui disent, j'ai tellement semé que j'ai rien récolté. Sois patient, des fois ça prend du temps. Mais continue à semer parce que Dieu se sert de toi aussi pour amener une culture d'honneur. Amen. Et mon dernier point est que non seulement une culture d'honneur, le royaume de Dieu, on doit honorer Dieu, on doit honorer les autres, mais on doit aussi honorer nos autorités, les gens qui sont au-dessus de nous. Et je sais que quand j'amène ce point-là, surtout en ce moment, c'est comme compliqué. C'est comme, oh Ben, tu vas parler de respecter ou d'honorer nos autorités? Mais en ce moment, avec nos autorités gouvernementales, je ne suis pas forcément d'avis, puis je n'ai pas voté pour eux. Et puis en ce moment, si je pouvais parler à François Legault, ben, je lui dirais ces 4 vérités. Pourrais-tu lui dire juste une vérité? Qu'on l'aime, que Dieu l'aime, qu'on prie pour lui et qu'il y ait une job difficile, mais en ce moment, on prie pour qu'il y ait une sagesse de Dieu. Vrai ou pas? J'ai rencontré quelqu'un il y a plusieurs années, puis c'est une fille de l'église, puis qui dit, j'ai rencontré, je pense que c'était la mairesse de Montréal, à un moment donné où ça allait très mal à Montréal, puis il y avait beaucoup de tensions. Et puis, elle l'a rencontrée dans un magasin de chaussures. Et puis là, elle s'est dit, oh, je vais lui faire payer. Et là, elle a commencé à donner des sarcasmes. Puis, ah ben moi, si j'étais la mairesse de Montréal, ben voici ce que je ferais, et tout ça. Puis je dis, waouh, mais c'est incroyable parce que je ne la rencontre pas, la mairesse de Montréal. Mais si je pouvais la voir, que j'ai voté pour elle ou pas. Mais je ne sais même pas si on vote pour la mairesse de Montréal. Oui, en tout cas, mais je n'habite pas à Montréal, bref. Donc, mais c'est comme, si on avait juste une chose à lui dire, est-ce que c'est des sarcasmes et des critiques sur sa manière de gérer? Ou la chose qu'elle a le plus besoin d'entendre, c'est qu'on prie pour elle? Oui, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ce n'est pas grave. Tu crois que Paul était d'accord avec Néron? Tu crois que Jean, quand il parle de l'Apocalypse, il se dit « Ah, oh, il faut, mais soyez rebelles avec vos autorités. » C'est complètement l'inverse. Mais il va dire « Ouais, mais c'était des mauvaises autorités. » Peu importe. Jésus a même pardonné à la croix ceux qui étaient en train de le clouer. Si ton modèle, c'est les rebelles de la Bible, Je pense que tu as mal vu. Notre modèle parfait doit être Jésus-Christ, qui honorait même ceux qui le martyrisaient. En ce moment, les gens regardent la parole en disant « Oh, moi, je suis appelé à être un prophète. Le prophète Jérémie qui vient et qui clash et qui dit « Voici les chrétiens, ce qu'ils font mal. Je vais créer des pages Facebook pour commencer à déshonorer tous les chrétiens parce qu'ils se font mal. » Tu penses que réellement, c'est ce que Christ veut pour toi en ce moment? Non, mais réellement. Des fois, du monde m'envoie des choses sur Internet. Je me dis « Mais comment tu peux croire que ce ministère est agréé de Dieu est agréé de Dieu ?» Comment tu penses que Jésus prend plaisir à une personne qui est juste en train de déshonorer, en train de critiquer, en train de rabaisser? Est-ce qu'on pourrait être une culture d'honneur dans cette église qui dit « Eh, peu importe ce que nos autorités disent ou font, on va être comme ce que la parole de Dieu dit, pas notre culture, pas rebelle envers nos autorités, mais soumis à nos autorités, priant pour elles, montrant que notre église, nous les soutenons dans leur mission de bénir la société. Et même si en ce moment, ils font des moves que tu te dis « Ah, je ne sais pas si c'est… » En ce moment, Dieu est souverain, pas toi. Donc, prie que Dieu soit souverain et que ces gens-là comprennent que Dieu est souverain. Parce que notre Dieu fait toutes choses bien pour ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Donc, si Dieu le permet, c'est que Dieu a un plan. En ce moment, il ne te demande pas de remettre en question son plan. Il te demande juste de dire, sois fidèle, prie pour eux et prie qu'il y ait des conseillers. Prie pour qu'il y ait des gens, il y ait une sagesse, il y ait des Esther qui arrivent au roi pour un temps comme celui-ci. Prie pour qu'il y ait des Daniel, des gens qui soient remplis de la sagesse de Dieu, qui vont arriver en disant « Oh, vous avez eu un rêve, mais voici ce que le rêve veut dire. » Prions pour qu'il y ait des Joseph qui soient mis proches de Pharaon, qui ait une sagesse et que… Mais ni Daniel, ni Joseph, ni Esther étaient rebelles. Au contraire, ils étaient soumis, mais ils étaient soumis à Dieu et Dieu se servait d'eux pour ce gouvernement-là. Est-ce qu'on peut être une église qui revient à la parole de Dieu? Romains 13, 1, 2 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le seul commandement dans la parole de Dieu qui amène une promesse, c'est « Honore ton père et ta mère ». Il vient avec une promesse. C'est le seul commandement des 10 commandements qui vient avec une promesse. Par contre, on voit que quand on déshonore les autorités, ça vient avec une condamnation. C'est fort. Parce que dans cette parole, c'est marqué, puis je ne suis pas le prédicateur de la condamnation de Dieu, vraiment pas. Mais si on prêche la parole, on la prêche entièrement. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce qu'en ce moment, tu honores chaque personne en autorité autour? Et ça commence avec nos parents. Pour les ados, je sais que c'est compliqué des fois. Mais si tu honores tes parents, il n'y a qu'une promesse qui est là, il y a une bénédiction. Tu es exactement là où Dieu veut pour toi. Est-ce qu'on honore nos professeurs à l'université, à l'école? Nos patrons? Est-ce qu'on honore la police, le gouvernement? Critiquer ne change rien. Mais prier change tout. En ce moment, beaucoup de personnes critiquent pour une... avec leurs voisins, avec les choses, ça ne changera rien. Juste à mettre du venin et de l'huile sur le feu encore plus. Je ne parle pas que, ah oui, mais est-ce qu'il faut être là et patienter? Il y a des bureaux de vote, on est dans un pays libre, tu pourras voter au temps opportun, et puis il y a des mouvements que tu peux faire qui sont exactement bons en fonction de la conviction que tu as reçue, il n'y a aucun problème. Par contre, de critiquer avec des voisins et de dire, ouais, voici, regarde, en ce moment, ça n'amène rien qu'une culture de déshonneur. Alors que nous sommes appelés à honorer, à soumettre. En ce moment, je n'aimerais pas que les chrétiens soient connus comme les plus rebelles de la société, ce qui parfois l'est. Est-ce qu'on pourrait être reconnu comme les chrétiens ayant tellement la sagesse de Dieu, la conviction et l'amour de Dieu, que peu importe ce qui se passe autour, on brille. On brille, parce qu'on est appelé à briller, et Dieu va nous faire briller dans chaque situation, combien peuvent dire amen. Je vais appeler les musiciens à venir, on va terminer dans un instant. Mais le principe de soumission est omniprésent dans la parole de Dieu. Et le principe de non-soumission, ça amène le déshonneur, toujours. Satan n'a plus voulu honorer Dieu. Et il ne s'est plus soumis à Dieu. Ce qui fait que c'est devenu le prince des ténèbres. Jésus a été lui-même tenté de se soumettre à la volonté de Dieu ou pas dans le jardin de Gethsémané. Mais il l'a fait, gloire à Dieu, que Jésus a dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il s'est soumis, Jésus lui-même s'est soumis. Notre nouvelle naissance, nous sommes appelés à nous soumettre tout entier, notre corps, nous abandonner à notre ancienne vie et nous abandonner à Dieu. Abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu et nous soumettre entièrement à Dieu. L'inverse de la rébellion, c'est le déshonneur. L'inverse, pardon, de la soumission, c'est la rébellion. L'inverse de l'honneur, c'est le déshonneur. Il n'y a pas d'entre deux. Et je termine avec une illustration qui m'a fait rire et pleurer en même temps. Alors que je partais à l'école, j'ai déposé les nids, puis je partais au travail. Et en partant, je roulais à 20 km/h. Je suis en train de mettre mon cellulaire qui est posé sur mon. Je ne voulais pas utiliser le mot anglais, dashboard. Mais en tout cas, y a comme, je commence à mettre tableau de bord. Merci, Jacques. La loi 101. Alors, je suis en train de changer, soit mettre de la musique et mettre mon GPS en même temps. Et là, je touche, mais bloup, bloup, je regarde, la police m'arrête. C'est mardi matin, je commence la job, je suis comme, Seigneur, aide-moi, puis vraiment. Puis là, je vois une dame sortir. Elle a l'air gentille. Je me dis, Seigneur, merci, c'est pas un shérif et tout ça. Elle vient me voir et puis tout de suite, bonjour monsieur, vos papiers, tout ça, je donne mes papiers. Puis vous avez touché votre cellulaire? Oui, mais regardez, il est posé sur le tableau de bord, il est mis sur un... Elle me dit, oui, mais normalement, on ne peut même pas le toucher. Je dis, oui, mais c'était pour mon GPS, vous avez vu? Je ne lui ai pas dit, c'était pour mon Spotify et mon GPS. Alors j'étais comme, oui, mais il y avait comme mon GPS, vous voyez? Elle me dit, oui, oui. Elle me dit, c'est déjà mieux que si vous l'aviez dans la... Mais je reviens, elle repart en arrière. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as donné une douceur, une paix, un amour. J'étais vraiment, sérieusement, là, j'avais la foi. J'ai dit, c'est bon, réellement, merci pour ta grâce, Seigneur. J'étais déjà en train de remercier Dieu pour le miracle qui était en train de se passer. Même pas 30 secondes après, elle revient. Je dis, c'est bon. Elle a vu que sans doute, peut-être, elle a pris son truc. Elle a dit, waouh, cette personne est clean, elle n'a pas de casier judiciaire, rien, waouh. Elle revient, elle me remet une ticket, $500, 5 points de démérite. Je dis, là, il y a un combat spirituel. Je dis, comme, là, je veux être calme, je veux honorer. En plus, j'étais en train de travailler ce message-là. Je suis comme, attendez. On va juste réexpliquer parce que là, je n'avais pas mon cellulaire dans la main ou sur mon oreille. Il y a comme une gradation, tu sais, 5 points de démérite. Ça va me coûter combien pendant 50 ans là, sur mon permis? Et puis, $490 réellement. Là. Je suis comme, sérieusement, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu abusé? Comme... Elle me dit, oui, la règle vient de changer. Je pense qu'elle me parle de jours. Elle me dit, on vient d'augmenter les choses et puis en ce moment, c'est tolérance zéro. Je dis, tolérance zéro, OK, mais il y a quand même la grâce. On n'est pas sous la loi, je vous le dis. Tu sais, je mettais mon GPS. J'essaie de parler avec, mais j'essaie vraiment de garder mon sein. Puis, elle ne me discute même pas. Derrière son masque, je vois son sourire en disant, bonne journée, vous allez la prendre à la dure. Et elle repart. Mais je l'ai appris à la dure, je te le dis. Mon téléphone, je ne touche même plus, je ne lui parle même plus, je le mets au fond de mon coffre. Mais j'ai réellement appris à la dure. Puis, pendant que j'étais en train de travailler ce message, je me disais, en fait, c'est simple, mais si je ne respecte pas la loi en ce moment-là, si je fais juste, je déshonore la loi. Et même si je peux expliquer à madame la policière combien je suis un homme bien, combien je fais, j'essaye que ma vie bénisse la société, puis que j'essaye de tout faire, de respecter la loi partout. Elle, ce qu'elle a vu, c'est ce que je n'ai pas fait. Ce que j'ai comme fait pour transgresser la loi. Et puis, quand j'ai appris, j'ai dit, Seigneur, merci pour l'illustration, vraiment, parce que je vais essayer que ça soit vraiment un message pour toute l'Église. Ne touchez pas vos cellulaires, aucunement, OK? Mais j'étais comme, Seigneur, on l'apprend à la dure comme ça, mais aide-nous à ne pas l'apprendre à la dure. Aide-nous à comprendre que notre vie, chaque jour, doit être l'honneur à toi. Vous savez, Jésus ne nous l'a pas fait apprendre à la dure, la grâce et le pardon. Il a pris sur lui toute la peine, il a payé notre ticket de notre vie que nous devions passer en enfer. Et il a dit, reçois ma grâce, reçois la paix. La police aujourd'hui, oui, représente la loi. Mais c'était une illustration que je me disais, waouh, je l'ai appris à la dure, mais j'aurais dû apprendre avant. Et puis, je n'aurais pas subi ces conséquences. Je veux que nous puissions tellement comprendre que Dieu veut que nous soyons une église qui brille. Attendons pas qu'on la vive à la dure. Attendons pas qu'on ait des gens qui viennent et puis qui te confrontent en disant, hey, tu parles d'un Dieu d'amour, mais tu es la pire personne qui critique en ce moment. Tu parles d'un Dieu de joie, mais tu es la personne qui sourit le moins à la job. Mais tu parles d'un Dieu qui pardonne, mais tu es toujours en train de dire, oh, regarde ce que lui a fait, tu ressors les dossiers. Est-ce qu'on pourrait être connu comme des gens qui vivons l'Évangile vraiment? En disant, Seigneur, je te demande pardon pour qui je suis. Puis parfois, je ne suis pas du matin, parfois, je ne suis pas du lundi matin, parfois, je ne suis pas du mardi, mercredi, jeudi. Non, bref, en scène, Seigneur, pardonne-moi pour qui je suis, mais donne-moi ton cœur. Je veux me reconsacrer chaque jour à dire, Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Les enfants, en ce moment, apprennent le fruit de l'esprit en bas, la fruiterie, la paix, l'amour, la joie. Est-ce qu'on pourrait être comme eux en disant, Seigneur, redonne-nous ce qu'on a besoin pour honorer non seulement ton nom à toi, mais honorer ton nom au travers de nos relations, pour les gens qui te connaissent comme les gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-nous une joie de pouvoir t'honorer au travers de nos relations, qu'on puisse honorer chaque personne, craindre Dieu, aimer les frères et honorer le roi. Est-ce qu'on pourrait prier pour nos gouvernements en ce moment? Je ne pense pas qu'il y ait une personne politique qui dirait « Oh, j'aurais rêvé que mon mandat se passe durant les 2020-2021. » Il n'y a personne, je pense, qui aurait voulu être en charge de tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait prier pour eux? Parce que là encore, soumis à la parole de Dieu, nous devons prier et honorer et demander une faveur spéciale pour eux. Et même s'ils sont complètement de l'autre bord du parti politique pour lequel tu as voté, est-ce qu'on pourrait juste dire « Les rois sont de l'eau dans les mains de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec. » Et en ce moment, Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe. Dieu dit, je sais exactement ce qui se passe et j'ai besoin d'une église qui brille. Je n'ai pas besoin d'une église qui est comme de l'autre côté, avec le côté où on remet tout en question et puis on critique et puis on blasphème, pas blasphémé, mais on a tellement une parole de mort envers eux que waouh, quand ils nous regardent, waouh, il y a l'amour de Dieu qui transparaît. Non. Est-ce qu'on pourrait être, qu'on soit d'accord ou pas? Seigneur, on te prie pour eux. Même si on ne comprend pas, on te prie pour eux. Comme Paul encourage les chrétiens à prier pour Néron. Et on l'a vu, Néron n'était pas quelqu'un de gentil. Est-ce qu'on pourrait prier pour eux en disant, Seigneur, amène une sagesse, amène une conviction, amène ta volonté. Seigneur, la prière, si tu crois que la prière a une grande efficacité, alors prie. Arrête de critiquer, change tes critiques en prière. Est-ce qu'on pourrait se donner une semaine de défi en disant, OK, à chaque fois que j'ai envie de critiquer quelqu'un, mais je prie pour lui. À chaque fois que j'ai envie de lui dire, oh, quelqu'un a mal fait ça, mais je vais le bénir. Et puis je vais aller lui dire ce qu'il fait de bien. Est-ce qu'on pourrait être une église qui remet la culture de l'honneur à un niveau de dire, si Seigneur, toi tu nous as honorés en donnant ton Fils pour nous. Nous ne valions rien, mais Dieu est venu nous honorer. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Se sacrifier pour quelqu'un, c'est lui montrer son amour. Il a sacrifié la vie de son Fils, Jésus-Christ. Dieu lui-même est venu subir la peine que nous devions vivre. Est-ce qu'on pourrait juste lui dire, Seigneur, on veut te ressembler? Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux quelques instants alors qu'on va terminer en priant?